Radio Canu vous présente dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Talon d'Achille. Les lettres que vous entendrez sont de Franck Ruti. C'est pour ainsi dire un scénario co-écrit, écrit à deux mains, comme on dit. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Il lui semble que la pièce est en désordre, mais elle est vide. Il marche, en trébuchant un peu, et, comme il n'y a personne, il sort du bateau. Il voit la porte. Personne, toujours personne, sur le quai, même pas la voiture noire. Alors, il se sauve en courant. Après une heure de course, il s'arrête. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi l'a-t-on abandonné? Il décide de quitter la ville. Il se retrouve à 7, sur les quais, toujours sur les quais, la porte des prix. Chaque fois qu'il voit une voiture noire, il se sauve. Il a peur de parler aussi.
J'ai des pomerlingues, des macarons, des pigeons, des loups.
Allez, viens, ça marche tous les affaires.
Oui, allez, j'y suis. Allez, j'y suis.
Il ne comprend pas et se demande ce qu'on lui veut. La mallette ? Ne semble pas les intéresser, ou si peu. Alors, et Pablo et Max ? Pourquoi le laisse-t-il tomber ? Max est dans le hall de la gare de Perrache, une mallette à la main. Il y a peu de monde, il est 15h30. Il voit debout une femme en tailleur rouge. Elle est grande, mince, très élégante, cheveux châtains, longs, lunettes noires, bandes noires, talons aiguilles rouges. Elle a un petit sac à main à bandoulière rouge. Elle tourne la tête vers lui et va à lui. Je suis la personne à qui vous devez donner la mallette. Max lui tend. Merci. Et elle s'éloigne. Max court de l'autre direction. Elle entre dans un wagon de première classe pour aller à sa destination. C'est un wagon en compartiment. Un contrôleur dans le couloir lui demande. Vous cherchez la place 423. Elle lui montre son billet. C'est par ici, madame. Il l'amène. Il ouvre le compartiment, il est vide. Toutes les places ont été louées. Vous êtes la première. Le train va partir dans 3 minutes. Bon voyage, madame. Et il sort du compartiment. Elle quitte ses lunettes. Elle pose la mallette sur le siège et le sac dessus. S'assoit. Ouvre son sac en sort un téléphone. Fait un numéro. Allô ? Oui, c'est moi. Oui, j'ai la mallette. Il a parlé ? Bon, aucune importance. Il nous a dit l'essentiel. Non, je suis dans le train. Oui, seul, j'ai loué tout le compartiment. Il est toujours là-bas ? Bon, c'est très bien. La chose doit se faire vite maintenant. Au revoir. Elle range le téléphone dans son sac.
Mais que se passe-t-il ?
Attention sur votre cas, le train Stanley 47 à destination de Narbonne va partir.
Le train se met en route. Et il est parti. Elle se lève, ferme les rideaux, ouvre la porte, regarde le couloir. Il est vide. Ferme la porte, ouvre la mallette. Soulève une pochette marron, puis une bleue. Et au fond de la mallette, une boîte en métal. Elle la prend. Il y a une seringue et des aiguilles de rechange et des piles de bouteilles de verre. Elle ferme la boîte en fer et la met dans son sac. Elle ouvre la pochette marron, feuillette, des feuilles blanches, puis la pochette bleue aussi. Elle range les pochettes dans la mallette, puis dans la dans le porte-bagages et s'assoit. Le train file vers sa destination. Un an plus tard, on l'appelle pour le déjeuner au wagon-restaurant. Elle met ses lunettes, prend son sac, sort du wagon. Il y a quelques personnes qui font comme elle. Elle suit les gens pour aller au wagon-restaurant. Elle s'arrête un instant pour laisser passer deux hommes et va s'asseoir à une table du fond. Elle commande salade verte, un steak bien cuit, un pamplemousse et un café. Tu veux l'addition de suite, pour pas être obligé d'attendre. Tant d'engins observe les deux hommes qui sont en face d'elle. Ils semblent avoir beaucoup de choses à se dire en parlant bas. Ils sont grands, forts, blonds dans les 30 ans, costume gris, mangent lentement. Elle se lève d'un coup, sort discrètement du wagon, restaurant, va dans le couloir, ouvre le compartiment 500. Il est vide. Elle regarde autour d'elle. Voit deux mallettes sur le porte-bagages. Elle quitte ses lunettes. Elle les descend. Elle en met une. Il y a des papiers, des dossiers. Elle les regarde rapidement. Elle entend du bruit dans le couloir. Elle s'arrête et ferme la mallette. Le bruit s'est éloigné. Elle ouvre l'autre mallette. Des papiers, des dossiers, qu'elle lit en vitesse. Elle en lit un plus lentement. Vite, elle ouvre son sac pour prendre un crayon et un carnet pour noter. Et pas encore une fois. Vite, elle ferme la mallette. Elle voit, elle reconnaît les hommes. Vite, elle remet la mallette dans le porte-bagages. Ils sont contre la porte. Elle ne peut pas sortir. Elle se cache derrière la porte qui s'ouvre. Un homme entre. Il prend la mallette, ouvre. Et prend un carnet. Puis remet la mallette en place et sort. Elle les entend s'éloigner. Attend quelques secondes et sort du compartiment pour aller dans le sien. Elle arrive à destination, sort du train et de la gare, dehors, fin de journée. Elle prend un taxi et se fait arrêter à l'hôtel Royal. L'hôtel est un vieil immeuble de 130, hall d'entrée vaste. Velours rouge, tapis, salon, etc. Elle va à la banque du concierge. Bonjour, je suis Madame Carole Bourdon. J'ai réservé une chambre. Elle regarde son cahier. Oui, madame, 623, troisième étage. Il sonne. Un jeune groom arrive. Amenez madame au 623. Le groom demande. Vous avez des bagages? J'ai cette mallette. Pour le moment. Elle lui donne. Veuillez me suivre, madame. Et elle suit le groom. Ils vont jusqu'à l'ascenseur. Arrivé au troisième étage, il va lui ouvrir la chambre 623. Entrez, madame. Elle entre. La pièce est morte,
Mobilier Doucet, bois blanc. Il va ouvrir les volets. Il y a un petit balcon. Vous avez vu sur la mer, madame. Puis, venez, madame. Voici votre chambre de bain. La chambre de chambre viendra vous apporter le linge. Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci. Le téléphone est ici. En faisant le 0, vous avez la réception. Et vous pouvez demander ce que vous voulez. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Et il sort de la chambre. Elle va vers le vaste lit. Quitte ses chaussures. Défait la veste de son tailleur. Elle est nue dessous et s'allonge. Une heure plus tard, on lui a amené ses bagages. Le petit fan marche dans les rues en mangeant un morceau de sandwich au jambon. Il a passé sa journée à faire la manche. Maintenant, il va dormir dans une pièce d'un immeuble en démolition qui se trouve dans une petite rue près du port de Sète. Il est fatigué. On a marre de courir comme ça, sans arrêt, d'avoir peur. Il a demandé de l'aide à Max, à Pablo, mais aucun des deux ne vient l'aider. Il entre dans l'immeuble. La porte a été défoncée. Il monte jusqu'au premier. Entre dans une pièce. Il va s'allonger sur un tas de vieux papiers. Une heure plus tard, il s'est endormi. Tout à coup, il se sent secoué. Il se réveille, voit pencher sur lui une ombre. Puis, la lune éclaire une lampe de couteau. Le petit fan fait le geste de se lever. Une main le plaque à terre. Comme voulez-vous?
Je ne peux pas faire autrement, mon petit. Si c'est pas toi qui, si c'est pas moi qui le fais, ce sera un autre. Avec moi, au moins, ce sera fait proprement.
Je vous jure que je ne dirai rien.
C'est trop tard. Tu as déjà parlé.
Le petit fan voit avec effroi la lampe s'approcher de sa gorge. Il essaie de se dégager, mais l'homme le maintient de son autre main fermement à terre.
La lampe effleure le cou. Il est comme paralysé et n'ose ni parler ni bouger. L'homme vient de pousser un cri. Lâche ce petit fan et tombe à la renverse. En tombant, le petit fan voit que derrière l'homme, il y a une ombre féminine. La femme, d'un coup de pied, pousse l'homme plus loin.
Et le petit fan voit qu'elle se penche vers lui, une seringue à la main.
Tu vas bien ?
Oui.
Elle lui demande, il n'y a pas de lumière ici ?
Non.
Elle lui dit, lève-toi et partons. Il se lève, elle range la seringue dans ce sac emballé d'un mouchoir.
Qui êtes-vous ?
Elle lui dit, allons, sortons.
Et il la suit.
Une fois dehors, il voit que c'est une femme brune, en tablure rouge. Elle lui dit, viens, j'ai ma voiture là-bas. Elle le mène vers une voiture décapotable blanche. Entre. Il entre.
C'est une voiture que j'ai louée. Qui êtes-vous ?
Disons que je m'appelle Caroline.
Où allons-nous ?
À l'hôtel.
Comme voulez-vous.
Je t'ai déjà sauvé la vie. C'est déjà bien.
Arrivée à l'hôtel royal, elle le mène à sa chambre. Va dans la salle de bain. Prends un bain.
Il y va.
Un quart d'heure plus tard, il sort en peignoir. Elle lui dit, je dois sortir. Couchez-vous.
Et elle sort.
Une fois dehors, elle marche d'un bon pas, va vers le port, un tournant d'une rue sombre, où est-il ?
Elle se retourne, c'est Max.
Ça ne vous regarde pas, PD. La police a un dossier sur vous.
Pourquoi ne parlez-vous comme ça ? Moi, je vous félicite d'avoir éliminé un génor.
Merci, les deux, c'est mieux.
Et elle a tiré sur lui. Il n'a pas vu qu'elle sortait un revolver de sa poche.
La balle, une des balles est allée se trouver sur le front. Il y a un grand trou rouge. Et je sauve en courant.
Elle n'a pas fait 10 mètres ?
Pas si vite. On l'attrape fermement par le bras. C'est Pablo.
Elle lui demande. On t'a lâché ?
Oui.
Tu as parlé ?
En partie, oui.
Ils ont la formule ?
Non, ils cherchent le petit.
Et toi ?
Moi aussi, pour le protéger.
Ils gardaient le secret pour toi. Lâche-moi.
Non,
nous allons vous parler.
Viens.
Il la tient fortement par la main. Il l'amène au port et là, la fait monter dans un petit bateau de plaisance.
Fait descendre dans la cabine. Entre. Elle entre. La cabine est meublée en salon. Tu t'assois sur un canapé. Chez toi. Elle a un revolver à la main. S'assoit sur un fauteuil en face d'elle.
Maintenant, nous pouvons parler tranquillement. Qu'est-ce que tu veux ?
Rien.
Alors pourquoi t'intéresses-tu à ce jeune homme?
J'en ai parfaitement le droit. Je suis attente.
À d'autres.
C'est vrai. Nous ne fréquentons pas, mais je suis sa tante, la sœur de sa mère. Et je veux m'occuper de lui.
Non, tu vas aller voir la formule. Une fois que tu l'auras, tu vas l'éliminer.
Alors pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Pourquoi ne l'aurais-je pas laissé tuer aussi? Je l'ai aidé, bien au contraire.
Peut-être parce que tu crois qu'il te dira son secret. Un secret qui vaut de l'or, salope.
Elle ouvre ses épaules et lui dit, « Et toi, tu n'as pas hésité pour sauver ta peau de parler de ce qu'il détient ?»«
Oui, mais j'ai pas dit la formule. Et je recherche le jeune pour l'aider, le sortir de tes griffes. Mais comment tu fais pour moi ?»«
Je travaille au ministère des Affaires étrangères. J'ai entendu parler de toi. C'est moi qui t'ai fait coffrer. Puis, si tu m'attrapes pour que tu n'attrapes pas le fang, je savais que mon beau-frère avait découvert la formule et qu'il était mort sans la dévoiler. Mais que toi, tu as assisté à ces derniers instants, le petit aussi. Tu sais la formule?
Non, mais je sais où elle est, et je la vendrai au plus offrant.
Et le petit?
Tant qu'il sera avec moi, personne n'osera le toucher. Et puis, si on touche le petit, il n'y aura plus de formule. Pourquoi tu tuais Max?
Ce PD, quelle importance! Il a cru à ton histoire. Et dire que j'ai transporté une mallette remplie de feuilles vierges. Il est dans ta chambre, je présume. Peut-être.
Je suis vraiment navré.
Il lui a tiré des balles dans le ventre. Et se sauve. Le petit fan s'est endormi sur le lit, enroulé dans le peignoir de bain.
Il est réveillé par la porte qui s'est ouverte.
Je vois avec surprise. Pablo, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pablo s'approche de lui.
Et lui dit, je suis venu te chercher, tu es en danger. Allez, habille-toi et partons.
Oui, mais où? Nous prenons l'avion. Pablo prend le pied droit et regarde sur la plante du pied. Tatouage avec des chiffres, des lettres.
C'est bien, ne montre jamais ça. Tu te souviens? C'est moi qui t'ai fait. C'est ton père qui me l'a dit.
Oui, je m'en souviens. Mais qu'est-ce que c'est, Pablo?
Un signe pour que tu puisses jamais te... oublier ton père. Mais ne le montre jamais. Allez, viens, tes ennuis sont finis.
Et la femme qui m'a sauvé la vie,
elle, c'est elle qui m'a dit de venir te chercher.
Où est-elle? Qui est-elle?
Une amie. Allez, viens, nous partons.
Il s'habille.
Et ils sortent de la chambre.
Mmh.
Il l'amène dans un grand hôtel, une chambre à Dolly. Une fois dans la chambre, Sofitel. Pablo lui dit
« Dans 2 jours, nous partons en voyage en Amérique. Tu as ton passeport ?»«
Oui. » »«
Demain, je vais chercher les billets pour le train et l'avion. Lyon et direction l'Amérique. »«
Pourquoi ?»« Pour vivre et être heureux ?»
Le lendemain, il dit au petit Fan de ne pas sortir de chez lui. Il est allé dans une agence de voyage pour les billets. Le vendeur lui a dit
« C'est un peu rapide. »
« Oui, mais c'est pour une histoire de famille. »
Il retourne à l'hôtel voir le petit Fan.
« Tout est prêt. »
« Nous pouvons partir dans 2 jours. Tu restes et ne bouges pas d'ici. » Il y a encore du danger pour toi.
Dans la journée, il copie la formule qui est sous la plante des pieds, sur son carnet.
Puis, ils sont partis pour New York.
Pablo est heureux, le petit Fan aussi.
Tu le vois pas?
Après 5 heures de vol, l'avion a explosé. Le monde a explosé dans l'avion. Et a chuté dans la mer. En feu, pas de rescapé.
Dans une chambre d'hôtel à 7, dans un lit, une femme est allongée. Un homme en costume marine penché vers elle et lui dit
« Carole, la bombe a explosé dans l'avion. Pas de survivants. »
« Il était bien dans l'avion ?»«
Oui, nous avons vu embarquer. »
« Et la formule ?»«
Elle s'est désintégrée. » De toute façon, on l'aurait vendu aux Américains, qui seraient devenus les maîtres de l'énergie. Vous vous rendez compte? Une formule qui élimine complètement les déchets nucléaires, les centrales nucléaires, qui feraient de l'énergie sans déchets, sans rejet de déchets. Le nucléaire deviendrait la première énergie du monde et la moins chère. Avec cette formule, il détiendrait aussi l'espace. Les fusées seraient l'énergie nucléaire.
C'est mon beau-frère qui a trouvé cette formule. Il travaillait à l'énergie atomique, mais n'a pas eu le temps de présenter son projet. Il sentait son heure venir.
il a fait venir son fils et Pablo pour que Pablo puisse tatouer sur le talon de son fils la formule. Si Pablo, ce sacré salaud, ce Pablo, si Pablo n'avait pas eu des ennuis avec l'État, il aurait pris la formule avant comme caution pour sa liberté. Il a parlé, mais ne connaissait pas la formule. Il fallait qu'il retrouve le petit Fan. Je l'ai compris en lisant son dossier. Vous avez bien fait. Il voulait filouter la France. Et pourquoi l'appeliez-vous le petit Fan? Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le talon d'Achille, dont c'était la troisième partie. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Je tiens à dire, c'est que les lettres de cette histoire étaient écrites par M. Franck Ruti, je l'en remercie. C'était des lettres très bien faites et très bien écrites, qui racontaient vraiment une histoire très intéressante. Mais malheureusement, j'ai eu toutes les peines du monde à les lire parce que ça ne correspondait pas à ma façon de dire mes phrases, enfin de former mes phrases. Et parce que lorsque je lis pas vraiment, je lis une fois et ensuite je récite sans vraiment lire. Et là, j'avais des difficultés à lire. Je m'en excuse auprès de Franck Ruti, qui a dû être un peu choqué que je dise aussi mal ces lettres, pardonnez-moi. Et en plus de ça, je tenais à dire, c'est que je ne recommencerai plus jamais cette expérience, c'est de mélanger dans mes histoires des textes d'une autre personne. J'ai un univers vraiment trop particulier, une façon d'écrire un peu spéciale, ce qui fait que je n'arrive pas à faire les choses comme il faut. Il faut avouer que c'était vraiment raté et je ne recommencerai plus jamais. Je demande encore pardon à Franck Ruti et aux auditeurs aussi.